C'est pas pour vous ennuyer, mais on va quand même se relever.
Trois célestes consolateurs,
Esprit de vérité, toi qui es partout présent et qui remplis tout, présent de grâce et de la sainte vie, viens et demeure en nous, purifie-nous de toute souillure, et sauve nos âmes. Toi qui es bonté.
Donc, vous avez peut-être retenu quelque chose. Voilà. J'ai mon petit pistolet. Voilà, prier sans cesse. Donc, je ne sais pas comment résumer ça, c'est pour ceux qui arrivent à l'instant. Donc, dans la technique de la prière, il y a plusieurs manières de prier, et la plus simple dont parle Monseigneur Jean, donc c'est à l'aide de Monseigneur Jean, hein, notre évêque fondateur de l'Église orthodoxe occidentale, et la plus simple, la plus accessible à tous, c'est évidemment la prière, celle que l'on dit spontanément. On parle au Seigneur comme on parle à un ami, mais sans jugement, sans se juger, sans état d'âme, comme il disait comme exemple, j'ai tué, je suis innocent, j'ai tué, je suis menteur, je suis bon, je suis pas bon, ok, je ne me laisse pas influencer par mon ressenti émotionnel. Donc ça, c'est la prière, disons, qu'il conseille et qu'on peut utiliser en tout temps et en tout lieu. Alors, il se pose la question de savoir qui sommes-nous. Il insiste... attendez, là. Oui, qui sommes-nous? Moi, je vais faire un résumé, c'est pas mal. Oui. Donc, il dit qu'il faut lutter, évidemment, contre l'insatisfaction, que c'est notre penchant pour chacun de nous. Oui, je ne sais pas fort résumer. Parce que
je dis, pas... oui. Encore,
oui, alors, oui, mais j'y arrive. Hein. Alors, voilà. Il avait quand même, ça, je vais quand même reprendre simplement qu'il avait donné 5 points pour arriver à la prière, si vous voulez, 5 points. Se situer comme spectateur, là, parler à la troisième personne, se prendre au sérieux ou le prendre d'un air rieur, faire le vide en soi, faire le choix, et donc, quel que soit le choix, de toute façon, ne restons pas dans l'hésitation. S'accrocher à une idée fixe, c'est-à-dire dans le sens de répéter un mot, un verset, une partie ou la prière du cœur, mais s'y accrocher et s'y fixer. Et alors, très important aussi, rien ne m'est dû. Donc, savoir que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on pourrait prendre comme mérite et tout ça, en fait, aux yeux du divin, ça n'a pas beaucoup d'importance. Voilà. Alors, les besoins de l'homme. Nous avons donc trois composants. Nous avons l'esprit, qui ne peut être nourri que par le divin et qui est totalement objectif. Alors l'âme, vous savez ce que c'est comme nos états d'âme, elle est subjective, c'est ce que nous ressentons, on place dans l'âme donc l'art, l'amitié, l'affection, tout ça, c'est très important, mais elle doit rester à sa place, et alors vient ensuite le corps qui lui est nourri par l'âme. Donc l'esprit, c'est-à-dire ce qui est relié au divin, ontologiquement, nous sommes programmés avec un esprit qui nourrit l'âme, qui elle-même nourrit le corps. Malheureusement, depuis la chute, nous avons inversé le problème, et donc l'esprit, comme il doit se nourrir malgré tout, et qu'il ne se nourrit plus du divin, il parasite l'âme. Et donc il devient, au lieu d'être objectif, il devient subjectif comme l'âme. Et alors on y met ses émotions, etc. on juge Dieu, on juge l'autre, on est vraiment dans le jugement à ce moment-là aussi. Et l'âme n'étant pas nourrie sainement et saintement, elle parasite le corps, et le corps à ce moment-là, il devient malade ou il n'est pas bien. Et qu'est-ce qui se passe? Le corps n'ayant plus rien à part lui, après lui, il n'y a plus rien sur, dans l'être humain, il parasite à ce moment-là la nature. Voilà. Donc ça, c'est très, très important. Père Bernard suggère de faire des photocopies des deux pages que je vous ai lues, et donc chacun les aura, et on parle uniquement à ce moment-là de l'esprit, de l'âme et du corps. Voilà. Alors maintenant, je reviens à la suite. J'étais arrivée à l'équilibre d'une journée. Alors, pour atteindre l'équilibre d'une journée, il suffit de voir comment vivent les moines, hein, l'équilibre physique, psychique et spirituel à l'image des moines, voilà. L'idéal est 3 fois 8 heures. Travail, effort, détente, prière, et puis, oui, travail, effort, détente et prière. Alors, son conseil, avoir malgré tout la norme absolue et universelle en soi, devant les yeux, d'y comparer notre existence, de discerner dans quelle proportion nous en sommes loin. S'efforcer de remplir autant que possible la case vide en diminuant la case trop gonflée. Et ainsi, tâcher de se rapprocher de cette norme. Oui, effectivement, prier 8 heures, moi je suis plus près des 8 minutes que des 8 heures. Bon, il y a la distraction, la nourriture, le travail. Donc les moines, ils ont compris ça depuis toujours, qu'effectivement, ça c'est la journée parfaite, quoi. 3 fois 8 heures. Alors, donc ils parlent surtout pour nous, hein, les particuliers, comment on appelle ça, quand on n'est pas moine, qu'est-ce qu'on est?
Les laïcs.
Les laïcs, voilà. Alors quant au dimanche, si nous voulons bien digérer la liturgie, c'est très important, et c'est une des raisons pour lesquelles j'aime bien Monseigneur Jean, et être alimenté par elle, il est nécessaire d'entrer dans la détente. Il insiste énormément dans la détente, dans la promenade, le cinéma. Donc, on a fini la liturgie, on a nos agapes, et puis il faut vraiment, c'est important de se détendre. Il insiste beaucoup là-dessus. Ne l'oublions pas, la détente est aussi utile que la prière et le travail. Parce que c'est quelque chose dont on n'insiste pas assez là-dessus. On est agité et tout ça, mais la détente, la vraie détente, c'est vraiment très très important. Saint Antoine le Grand, qui est un grand ascète, disait à un ami étonné de le voir parler chasse, pluie et beau temps avec un fermier. « Mon ami, dit-il, si la corde d'un arc est trop tendue, elle se casse. » Notre Seigneur s'accordait des instants de détente. Donc, n'essayons pas de faire mieux que le Seigneur. Hein. Non, mais c'est important. Alors, effort, détente, prière. Voici les 3 attitudes qui devraient composer notre journée. L'effort. Le conformer au rythme de celui qui le pratique. Certains s'épanouissent dans la rapidité, d'autres dans la lenteur, d'autres dans la confusion. L'effort agité est nuisible. La détente, elle est malaisée à notre époque, et réclame un apprentissage attentif. La prière, qui est notre nourriture spirituelle, répond au cœur et à l'intelligence. Le Christ dit à la Samaritaine, « Maintenant, on adorera Dieu en esprit et en vérité. Esprit signifie l'Esprit Saint, et vérité, c'est le Christ. Notre prière doit nous alimenter en esprit, notre cœur, notre élan est en vérité, c'est-à-dire notre intelligence et notre pensée. » C'est vrai que tout à l'heure je disais d'éloigner les pensées, mais c'est pas la même chose, évidemment. Il faut prier de tout son cœur, tout en laissant la prière venir, parce qu'elle nous est donnée, et en vérité, de toujours se référer au Christ, à la manière dont le Christ a vécu, la manière dont il nous enseigne. Voilà, c'est ça, ouvrir notre intelligence à ce qu'il nous dit, à ce qu'il nous a enseigné, et de la manière dont il a vécu. Voilà, orienter notre pensée un peu comme le Christ, c'est-à-dire le relier à l'esprit et en même temps pouvoir discerner. Le discernement fait partie pour moi de la pensée. Alors la vigilance, il insiste beaucoup aussi sur ce mot, est intimement liée à la prière. Il s'agit d'une qualité antinomique. Alors il explique bien ce que c'est une pensée antinomique, c'est prendre les opposés, non comme des éléments de lutte, mais dépasser leur opposition. Je trouve que c'est une très bonne définition. Donc ne pas dire, je ne sais pas moi, je suis, attendez, comme des éléments de lutte, oui, je suis fatiguée et en même temps je lutte pour rester bien éveillée. Eh bien, quand on est dans la prière, par exemple la liturgie, ça c'est vraiment un moment antinomique que l'on vit souvent. À un certain moment, on n'est vraiment pas bien, on n'a plus envie de prier, on n'a plus envie de participer. Eh bien, on est là avec notre état d'âme et en même temps, notre esprit est nourri. Et donc à ce moment-là, notre esprit retrouve. Si nous écoutons simplement la prière, notre esprit va retrouver sa juste place. Et à ce moment-là, l'âme restera aussi à sa place, mais nous prierons avec les deux. Mais c'est l'esprit qui prendra le dessus, si vous voulez. Bon, les deux natures du Christ, évidemment, hein, 100% homme et 100% Dieu. C'est important de savoir qu'il est 100% homme et 100% Dieu. Alors, la Trinité, 3 et 1, c'est tout à fait antinomique, hein, Marie, Mère et Vierge. Et j'ai mis un portrait de Mgr Jean, parce que Mgr Jean avait une adoration toute particulière pour la Trinité, hein, la Triunité, comme il disait. Il me semble qu'il disait un jour, je ne sais pas si j'existe, mais en tout cas, je suis sûr d'une chose, c'est que la Trinité existe. Donc c'était un homme vraiment profondément priant et convaincu de ce don inouï que Dieu nous fait à chaque instant. Donc la vigilance passe par l'antinomie, absence de sommeil et absence de tension, la détente et lutte contre le sommeil. C'est ce que les pères appellent la pathéia. La pathéia, c'est un mot que vous connaissez. Hein, donc, on n'est pas endormi, mais on est vigilant et en même temps, on est détendu. Avant et pendant la prière, le travail consiste à lutter pour garder cet état de vigilance. La tentation surgit précisément lorsque l'on n'est pas vigilant. Donc voilà, la vigilance, encore un mot qu'il utilise particulièrement. Et bon, j'ai un résumé de tout ça, mais c'est vrai qu'il en parle très très bien. Alors, la prière perpétuelle. Bon, c'est par excellence la prière respiration, hein, donc vous connaissez mieux que moi. Cette prière, je ne m'étendrai pas sur cette prière que d'autres connaissent bien mieux que moi et à laquelle Mgr Jean fait longuement référence. Ça, il faudrait voir dans son livre. Ce que moi je retiendrai de cette prière, c'est qu'il dit deux choses. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, pitié de moi. Cette prière se divise en deux parties. Et moi, c'est quelque chose que j'ai bien retenu. La première partie est objective. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu. Elle parle à notre intelligence, c'est la vérité, donc comme je viens de le dire, en esprit et en vérité, donc c'est notre intelligence, on se laisse inspirer. La seconde partie, aie pitié de moi, frappe notre cœur, elle est subjective. Nous comprenons la miséricorde de notre Dieu. Vraiment, c'est louer, enfin, invoquer le nom du Seigneur et puis lui dire aie pitié de moi, c'est... Fais-moi grâce, quoi, vraiment. Et il le fait à tous les coups. Hein. Ne dit-on pas recevoir la vérité et rendre l'esprit. Ce qui est intéressant, c'est que Mgr Jean insiste sur la prière qui doit être obligatoirement, qui doit obligatoirement avoir les deux aspects. J'y arriverai. Objectif et subjectif sous peine d'être déficient. Sans cela, dit-il, nous ne respirons pas l'air frais de Dieu. En aspirant, nous servons notre intelligence et en expirant, nous donnons notre cœur. Je viens de le dire, mais je le répète. Celui qui ne reçoit que l'inspiration habitera une maison sans fondation. L'inspiration entraîne dans les hauteurs, mais aussi dans les chutes. C'est un peu le problème des grands idéalistes. Hein. Ils sont dans l'inspire, ils sont inspirés, tout ça, mais finalement, l'incarnation ne suit pas, quoi. Le concret ne suit pas. Et donc, on peut être dans les hauteurs, mais quand on retombe, ça fait très mal. Chacun peut trouver sa formule, répétition d'un mot, Seigneur, Seigneur, il dit, vous pouvez dire 50 fois Seigneur, Seigneur. Moi, personnellement, cette prière, pour moi, personnellement, elle est trop longue. Je l'ai simplifiée, mais je tiens compte de Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Voilà. Et chacun la formule comme il l'entend. Mais donc, tenez bien compte de ces deux éléments objectifs et subjectifs. Hein, l'inspire objectif et l'expire subjectif. Oui, par exemple, il parle d'un verset de psaume. Un homme disait chaque soir, ah oui, ça c'est Monseigneur Germain qui disait ça. Sa prière du soir, c'était, en parlant à Dieu, il dit, il m'avise et je l'avise. Et puis il se mettait sa couverture sur lui et il s'endormait.
C'est
mon curé d'Ars. Ah, c'était le curé d'Ars. Eh bien, c'est Monseigneur Germain, mais il n'a pas précisé que c'était le curé d'Ars. Voilà. Heureusement que je n'ai pas dit qu'elle était de moi.
On lui demandait s'il faisait de penser. Je la vis et il m'a vis.
Voilà. C'était sa prière. Voilà. Ouais. Et il avait les deux éléments, en fait. Hein, objectif et subjectif. Oui. Alors, nommer rite, je vous en ai déjà parlé, mais il insiste là, Monseigneur Jean, il nous met en garde sur ce que l'on pourrait appeler nommer rite. Voici ce que Monseigneur Jean nous dit. La bonne volonté, l'effort personnel d'une valeur morale incontestable, hein, il ne veut absolument pas supprimer la morale, ne peut servir de monnaie d'échange. Donc ce n'est pas parce que l'on fait quelque chose que l'on doit recevoir quelque chose. Si Dieu apprécie nos efforts, notre mise en route, cela ne nous octroie pas un droit de réclamation ou que nous soyons quittes avec Dieu. Alors ça c'est une phrase très importante, en tout cas que j'ai soulignée en gras. Sachez que nous sommes perdurablement ses débiteurs à 100%. Donc ne nous décourageons pas. Il voit nos efforts, mais ce n'est pas pour ça que nous allons être récompensés cash. Monseigneur Jean trouve cette formule dont il a le divin secret pour expliquer cela. Nous parer des mérites est nuisible. Nous parer des mérites est nuisible pour nous. Les répandre sur les autres est excellent. Oui, c'est excellent comme phrase. Hein. Voilà. Voilà une de ces phrases. Parmi tant d'autres. Alors, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé, cette phrase, voilà, elle n'est pas tout à fait complète là. C'est « Mon Dieu, comme je ne t'aime pas, Dieu aime-toi, toi-même en moi. » Bon, comme je ne t'aime pas, on peut dire, bon, comme je t'aime assez peu, ou voilà, comme je vous disais, l'amour de Dieu que nous avons pour lui vient de lui. Il ne faut pas l'oublier. Dieu, aime-toi toi-même en moi. La prière perpétuelle n'est pas le chemin de tout le monde. Ça, il faut bien le savoir aussi. Il en existe d'autres. Voici un conseil de Monseigneur Jean. Mettons-nous en prière et demandons que l'Esprit porte notre esprit, qu'il se mélange à notre esprit et se confonde avec lui. Et ensuite, faisons suivre le soupir de notre cœur. Seigneur, voilà, elle revient à comme je ne t'aime pas, aime-toi toi-même en moi. Oui, lui demander de s'aimer en nous. Toi, donc il continue ses phrases, toi agis en moi, fais-moi vouloir ce que tu veux. C'est un programme, hein, je peux vous dire. Et un fameux. Alors, il nous... Pardon ? Oui, c'est ça. Fais-moi vouloir ce que tu veux. Oui. Mais disons que quand il dit fais-moi vouloir... C'est un moment précis, oui, c'est amen finalement, c'est vrai. Cette prière d'une efficacité certaine. Si l'Esprit Saint est la main droite, s'élevant vers le Père et notre esprit la main gauche, joignons-les l'une à l'autre. La main droite tirera et la main gauche suivra. Sans prière répétée comme la prière du cœur, cette prière nous permet de respirer Dieu. Donc, elle n'est peut-être pas tout à fait complète, cette prière, mais je trouve qu'elle est très efficace. Surtout quand on est dans l'agitation. On sent qu'on ne peut pas prier, que c'est difficile. Eh bien, je trouve que cette formule, Dieu aime-toi toi-même en moi, elle est vraiment efficace. Moi, en tout cas, j'en fais l'expérience et je l'utilise assez souvent parce que c'est difficile de se mettre en prière, de se détendre, tout ça. Et donc, on a vraiment l'impression que quelqu'un, il y a quelque chose en nous qui prie et qui n'est pas vraiment nous. Parce que parfois, on peut pas prier. Il y a on est trop pris par nos psychés, on ne peut pas se détacher correctement et donc c'est difficile. C'était en même temps un homme extrêmement religieux et comment dirais-je, spirituel dans tous les sens du terme, Monseigneur Jean, et un homme extrêmement incarné en même temps. Il connaissait très très bien l'âme, les combats que nous avions, etc., que nous avons au quotidien. Voilà. Et c'est pour ça qu'il insiste sur cette phrase-là. Alors, le désir. À propos du désir, Monseigneur Jean insiste beaucoup sur le fait de ne pas extirper le désir, même mauvais, mais le dévier vers une autre voie. Dévier vers une autre voie. Donc de ne pas le supprimer. Je te cherche dès l'aurore. Voilà. Il chante le désir de Dieu. Cet élan vers lui, pétrir le désir de Dieu en nous, orienter-le vers Dieu. Le désir, c'est vrai que quand on était petit, c'est pas ce qu'on nous disait, hein. Bon, il faut se comprendre, évidemment, le désir de ne pas écraser ce qui est en nous et le réorienter. C'est pour toutes les passions, c'est vrai, hein. C'est vrai, toutes les passions, finalement, c'est le même mot, hein, la passion du Christ aussi. Donc, c'est la passion, c'est une chose très, très humaine et qui est en nous, mais qu'il faut vraiment réorienter vers le Christ. Alors, je suis déjà à la conclusion, mais je vais m'étendre un petit peu sur Monseigneur Jean après. À nous de trouver la formule qui nous convient. Mais sachez qu'il vaut mieux prendre une petite décision et s'y tenir fermement que de grandes décisions qui nous découragent rapidement. Ça, c'est très vrai. Si on se dit bien, mais à partir d'aujourd'hui, je vais vraiment prolonger ma méditation, je vais faire la prière, essayer de faire les heures, en tout cas, et le soir, je vais dire la prière de l'accompli. Bon, allons-y mollo, mais si on nous décidons quelque chose, il faut s'y tenir. Donc, moi, personnellement, j'ai décidé quelque chose de très, très petit, très simple, et j'essaye de m'y tenir. Mais c'est vrai que on s'y accroche, hein. On n'a pas tendance à prolonger la décision, enfin, le choix de notre décision, mais s'y tenir, c'est très important. Alors, l'homme du XXe siècle croit que la science, la nature, la matière, le social sont objectifs et que la religion et la vie intérieure sont subjectifs. Ce qui est totalement faux, hein. Totalement. Si vous devez retenir une chose de ce que je vous ai dit, c'est de savoir que tout ce qui touche au divin est extrêmement réaliste. Il n'y a rien de plus réel que le divin. Et rien de plus objectif que le divin. Ça, il faut bien, bien se mettre ça dans la tête parce que.
Ce que tu entends par objectif.
Eh bien, c'est-à-dire que Dieu n'a. Si tu veux, tu peux prier en étant dans une immense tristesse ou dans une immense joie. Ce qu'il faut, à ce moment-là, c'est vraiment tourner son esprit vers le Seigneur et lui demander vraiment de nous nourrir, quel que soit notre état d'âme, quoi. Et souvent dans la liturgie. Eh bien, parce que le divin n'a rien à voir avec nos sentiments et nos émotions. Souvent, on dit, oh, quelle belle messe, on a entendu des beaux chants, il y avait de la musique, il y avait une belle guitare, et notre âme, elle est heureuse, et c'est normal. Mais le divin, il n'a rien à voir avec ça. Et c'est souvent comme ça. On remarque qu'on met Dieu, si vous voulez, on le calque à notre état d'âme, alors que c'est totalement différent. Moi, c'est quelque chose que j'ai compris mais il n'y a pas très longtemps, mais je me rends compte que nous sommes toujours là à vouloir faire Dieu à notre façon. Dieu est en dehors de tout, il est en même temps extrêmement plus présent que n'importe qui, et en même temps, il est totalement autre. Et donc, nous allons vraiment, et si on veut se guérir de nos états d'âme, je crois que c'est très très important de savoir que le divin est objectif, parce que c'est ça, l'objectivité qui va nous guérir de nos états d'âme. Qu'on est un jour bien, qu'on est un jour pas bien. Et dans la liturgie, je trouve ça très intéressant, parce que la liturgie, c'est quelque chose d'extrêmement objectif. On vous dit toujours les mêmes phrases, enfin il y a le commun, quel que soit votre état d'âme. Vous les écoutez d'une façon peut-être différente, mais ça vous remet directement dans l'axe objectif. Je ne sais pas si vous vivez ça, mais moi je le vis comme ça. Quand on entend les paroles et qu'on se nourrit de ces paroles, il n'y a plus rien d'autre. Le reste passe vraiment au second plan. On se rend compte qu'on reçoit quelque chose qui est en nous, mais qui est au-delà de nous et qui nous met, ça nous met droit, ça nous met debout. Comment vous expliquer ça? Je ne sais pas expliquer ça autrement. Oui, c'est clair. Ah bon, ça va. Oui. Donc, et Monseigneur Jean, c'est un homme qui m'a fait découvrir ça. Il m'a fait découvrir énormément de choses, justement. Et le goût du divin aussi, c'est quelque chose. C'est aussi un goût, goûter comme le Seigneur est doux. Bien sûr que toute sa miséricorde, vous allez dire, mais c'est quelque chose qui est gentil, qui est... Oui, mais c'est bien au-delà de ça, quoi. L'objectivité ne supprime pas nos sentiments pour autant, bien sûr. Dieu nous aime, bien entendu, mais il ne nous aime pas comme nous croyons qu'il nous aime, quoi. Ah, comme un... Oui. Abba Thomas, il dit toujours, moi quand je pense au Père, eh bien, je me lève et je m'assieds sur ses genoux. Donc en même temps, c'est très affectueux, et quand nous parlons au divin, comme il dit, parler, dire, c'est tout ce qui nous vient, mais sachons que Dieu nous construit par la prière, par la porte qu'on lui ouvre, et qu'il nous permet de nous détacher progressivement de tous les liens qui nous enserrent et qui fait qu'on est dans le jugement, on ne se croit pas aimé, on regarde ce que l'autre dit. Voilà, on est tout le temps sollicité par ces états d'âme et finalement, ça nous enlève notre liberté. L'objectivité nous permet de trouver notre liberté intérieure. Cette objectivité divine, voilà. Alors Dieu est incomparablement plus objectif que le monde visible. L'objectivité du monde extérieur est relative. Nous pouvons la modifier, mais rien ne peut modifier Dieu. Alors le déséquilibre actuel, et c'est vraiment l'actualité, hein, parce que Monseigneur Jean, il est décédé en septembre, je crois, hein, en 1970, oui. Le déséquilibre actuel résulte du fait que l'objectivité absolue en dehors de nous et en nous a disparu de la conscience. Vous voyez, on est beaucoup dans le, je dirais presque l'impulsion, chacun dit son point de vue, il croit qu'il a la liberté de dire n'importe quoi, or c'est tout à fait le contraire de ce qui se passe aujourd'hui. Nous avons de multiples exemples où l'homme moderne passe son temps à construire son Dieu. D'ailleurs, Bertrand Vergely a écrit un livre, La tentation du Dieu homme, hein. Il explique très très bien
de l'homme-Dieu.
Oui, de l'homme-Dieu, oui, c'est ça. Il explique excessivement bien ce danger qu'on a aujourd'hui, c'est de construire Dieu à notre façon, et surtout, dans beaucoup de cas, de se prendre pour Dieu, de croire que nous pouvons faire plein de choses, vous savez bien, au niveau, de toutes les lois qui sont aujourd'hui, comme si on avait le droit de vie et de mort, de transformer l'homme, enfin ça, tout le monde connaît les dangers d'aujourd'hui qui nous guettent. Et ça, c'est parce que nous avons éliminé le divin, ça c'est certain. Le divin, ce qui est merveilleux avec le divin, c'est que en allant vers lui, on se retrouve, on va vers soi, quoi. Et ça, c'est intimement lié. Nous ne pouvons pas, bon, vous me direz, il y a plein de gens qui ne connaissent pas Dieu, mais c'est pas ça l'important. L'important, c'est d'être dans sa vérité, et Dieu pourvoit. si quelqu'un ne croit pas, c'est pas grave, il parlera d'une certaine façon et ce sera la bonne de toute manière. Et si cet homme est honnête par rapport à lui-même, il entendra quelque chose, même s'il n'a jamais entendu parler de divin. C'est pas notre problème, c'est vraiment pas notre problème. Notre seul problème, c'est de se tourner vers le divin. Et c'est lui qui nous amènera aussi vers les autres et qui nous empêchera surtout de nous juger. Parce que le jugement, ça c'est vraiment, pour moi, c'est le témoin de notre subjectivité. Parce que la manière dont nous jugeons quelqu'un, chacun a une manière différente de juger l'autre. Donc ça prouve bien notre subjectivité, vraiment. Et donc, tout ce qui est objectif, c'est aussi absolu. Ça touche l'absolu aussi. Et ça touche vraiment le réel du réel, ça. Bertrand Vergely insiste beaucoup, il n'y a pas plus réel que le divin. Et on veut nous faire croire le contraire. Oui, toi tu as ton Dieu, tu crois, c'est facile, tu lui demandes, il a pitié de toi, il va venir à ton secours, voilà. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est très, moi je trouve que le fait, nous avons une grosse responsabilité, parce que si Dieu est venu parmi nous et que nous avons appris par notre religion, qui est une des vérités, pour moi elle est la vérité, mais il y en a plein d'autres bien sûr, eh bien, à partir de ce moment-là, on ne peut pas dire qu'on ne sait pas. On sait, mais l'effort est vraiment très difficile. Ça, il est exigeant. Ça, c'est évident. Alors, j'avais mis comme phrase, puisque j'ai lu il y a 2-3 jours, il y a 8 jours, par un verset de saint Paul aux Corinthiens. Pensiez-vous qu'avec lui, le divin, nous puissions avoir le dernier mot? Voilà. Je lui laisse donc le dernier mot. Mais c'est bien vrai. On croit pouvoir bâtir plein de choses et finalement, bon, c'est quand même lui qui a le dernier mot. Hein. On est toujours rattrapé par quelque chose qui perturbe nos projets. Voilà. Alors, Monseigneur Jean, c'est vraiment un homme extraordinaire et ça a été confirmé et reconfirmé dans ce nouveau livre écrit et qui parle en détail vraiment de toute sa vie. C'est le premier tome, il va y avoir un deuxième tome. Et alors, je vous signale, paraît-il, Élie de Foucault. Il va y avoir encore beaucoup d'autres tomes qui vont reprendre toutes les œuvres de Monseigneur Jean et toutes ses iconographies, enfin, tous ses dessins. Il faut vous dire qu'il savait tout faire, hein, Monseigneur Jean, tout. Je voudrais vous dire simplement, vous lire un petit passage qui décrit bien l'homme. Voilà, il est à l'armée, il a été enrôlé, il est dans le camp de concentration, il est dans un camp de concentration, il n'a pas été torturé. Non, c'est quand lui est venu en 1917 avec la révolution russe. Et donc il a émigré à Nice avec toute sa famille. Avec ses deux frères, il avait un frère qui était un grand liturge aussi et qu'il a aidé, Maxime, et dont on prie tous les dimanches pour lui. Voilà, un grand psychologue, musicologue, oui, tout à fait. Et psychologue aussi, parce que ces gens-là, ils connaissent bien l'âme humaine. Hein. Et donc, il est arrivé, depuis qu'il est tout petit, c'était son obsession, il faut relancer l'orthodoxie occidentale, ça ne se manifestait pas comme ça, mais depuis qu'il est tout petit, même en Russie, et quand il est venu ici, ça a été son unique travail. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, on montre à quel point Monseigneur Jean, qui était d'une intelligence vraiment humano-divine, je dirais, vraiment, d'une très très belle intelligence, l'humilité de cet homme est exemplaire. Et il nous dit, par exemple, c'est un homme qui avait des amis, il avait de très bons amis, mais il avait surtout beaucoup d'ennemis. Et quand on le critiquait, non seulement on le critiquait pour ce qu'il faisait, mais même pour ce qu'il ne faisait pas, donc c'était vraiment de la calomnie, il n'a jamais, jamais réagi. Jamais. Il s'effaçait, il n'essayait pas de se justifier. Moi, je trouve ça vraiment, parce qu'il a été très, très fort critiqué à tous les niveaux. Vraiment. Alors ce qu'il y a, c'est que c'est un homme très humble un homme qui était adoré dans les camps, dans le camp de concentration, il disait la liturgie tous les jours.
Il est tenu en condition.
Oui, oui, mais il a été arrêté par les Allemands. Non, non, par les Allemands. Et les Russes ont été arrêtés aussi. Alors il a été dans le camp des Russes à ce moment-là. Il était dans un camp de prisonniers. Il disait que c'était ses plus belles années, hein, parce qu'il ne se préoccupait de rien. Et il dit, moi, j'ai passé des années magnifiques. Et alors, il a aidé énormément de monde. Et justement, cet homme qui s'est battu pour l'orthodoxie et qui vraiment était convaincu de ce qu'il disait, il était en même temps extrêmement ouvert à tout le monde et à quelle que soit la religion, la situation. Et il a fait énormément de bien. Justement, c'était un homme qui prenait soin des autres. Il prenait vraiment soin des autres. Voilà. Alors, il a une permission dans le petit article que je vais vous lire. Il a une permission et il y a des personnes qui l'attendent au café parce qu'il aimait bien boire un petit verre, je crois. Hein. D'ailleurs, il fumait, hein, je vous signale, il fumait. Alors, le petit bistrot de Billancourt était vide en cette heure matinale. Avec impatience et joie, nous attendions notre grand ami, le père Graf Kowalewski, avec lequel nous avions pris rendez-vous avant son retour comme soldat de l'armée française. En l'attendant, nous parlions de cet homme extraordinaire. Georges, je ne sais pas qui c'est, qui le connaissait depuis sa jeunesse, me disait, je l'ai toujours admiré, son intelligence géniale, sa bonté légendaire, toute sa personnalité est exceptionnelle. Soudain, les portes s'ouvrent brusquement et le père entre. Il est en uniforme militaire, un énorme sac au dos sur ses épaules frêles. Du milieu de ce sac, il sort joyeusement une brillante cuillère de bois, ornée des dessins aux couleurs très vives, cuillère dont se servaient les paysans russes pour manger le potage. Tu connais ça? Voilà. Le contraste entre l'uniforme de soldat, l'éclat insolite de la cuillère et ce visage pâle, ascétique et noble du père est frappant. Nous commandons au garçon 3 cafés au lait. Le père adresse quelques paroles gentilles, amusantes au garçon. Éclat de rire, il paraît qu'il avait un rire extraordinaire, hein? Un tonitruant. Ce rire inattendu dans l'atmosphère lourde de la guerre. Nous buvons notre café, nous parlons de ceci et de cela. Tout à coup, le père se lève brusquement. Son visage change, devient beau comme celui d'un ange. Et oh, notre stupeur! Il se met à ouvrir toutes les fenêtres du bistrot, tous les placards, toutes les portes en disant, ou plutôt en criant, « Mais aujourd'hui, c'est le samedi des rameaux, c'est la résurrection de Lazare aujourd'hui. C'est la résurrection, résurrection, résurrection. Il faut tout ouvrir, tout, que la lumière de la résurrection saisisse tout par sa puissance. Ce n'est plus un soldat de l'armée de France, c'est un prophète. Ce n'est plus un café pauvre et médiocre, c'est une cathédrale. Le garçon de café est là-haut, est là, tout ahuri, stupéfait. Son regard est collé au visage du père. Nous descendons du ciel sur terre pour payer le garçon. Le père nous embrasse, nous bénit et s'en va léger et rapide. Moi, je trouve que ça le définit extraordinairement bien. Voilà. Et donc, c'est de lui que je vous ai parlé le mieux que j'ai pu. Mais c'est très difficile parce que la grande difficulté dans ce genre de livre, c'est de trouver des extraits. Parce que c'est comme la Bible, bon, c'est très difficile de trouver des phrases clés parce que je dirais que pratiquement toutes les phrases vous ouvrent une porte. Voilà. Et oui. Donc voilà. Alors, ce livre... La technique de la prière. J'ai toujours trouvé ça étonnant comme titre, hein, la technique, on se dit, allez, on est dans le... Est-ce que vous avez quelque chose qui vous parle plus, je ne sais pas, qu'est-ce que vous pensez de la phrase « Dieu aime toi-même en moi ». C'est... Ah oui, d'accord. D'accord. Quelle heure est-ce qu'il est là? Ah ben alors, c'est bon.
13 heures, oui. Ah ben maintenant, voilà. Il y a une pause pendant des tisanes pendant 20 minutes, et puis on a une méditation pendant 20 minutes, et on fait le partage.
Oui, oui, tout à fait.
13h40,
parfait, parfait. Voilà. Ben, merci à vous, parce que je vous dis, je ne l'aurais pas fait. Hein.